Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous, vous qui êtes là et puis vous qui êtes un peu plus loin. Voilà, nous allons ouvrir la parole dans quelques instants. Et le passage sur lequel nous allons nous arrêter aujourd'hui se situe dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Et il va du verset 47 au verset 60, comme on le verra. Mais nous lirons ce passage un peu plus tard. Alors avant même de commencer, on va prier. Voilà. Seigneur, nous te prions déjà pour nos enfants qui viennent de nous quitter. Nous te prions pour que tu sois avec eux pendant ces moments d'enseignement biblique. Nous te prions pour eux, nous te prions pour leurs moniteurs. Nous te prions aussi pour nous-mêmes qui allons ouvrir ta parole. Et nous le faisons avec à la fois crainte et joie. Crainte parce que c'est ta parole, et joie parce que c'est celle qui nous nourrit, qui nous fait du bien, qui nous permet de mieux comprendre ce que tu veux pour nous dans nos vies. Nous te remettons ces moments, Seigneur, et nous te prions pour que tu nous précèdes dans ces lectures. Amen. Voilà, alors s'il faut dès maintenant donner un titre à cette prédication, ce pourrait être classiquement Jésus, pain de vie venu du ciel. C'est le thème général de Jean 6, chapitre 6 de Jean. Mais on pourrait aussi l'intituler de manière un peu plus déroutante, se nourrir de sa chair et boire son sang. L'expression qu'on va rencontrer en parlant de Jésus, évidemment. Et c'est ce second titre, un peu plus déroutant, que je choisis en quelque sorte. Alors, le chapitre 6 commence par l'expression, du moins dans ma traduction, par l'expression « après cela ». Et puis il commence. Et le chapitre suivant commence aussi par l'expression « après cela ». Donc j'en déduis que le chapitre 6 forme une certaine unité. Et dans une première partie de la prédication, nous allons, comme je le fais parfois, survoler un peu ce chapitre 6 pour fixer le contexte, et nous nous arrêterons seulement sur le passage que j'ai suggéré dans la deuxième et dans la troisième partie. Il y aura donc trois parties dans la prédication. Je vais essayer, Frédéric, de mettre... Oui, je pense que ça va être bon. Voilà. Alors, dans une première partie, je ne vois pas bien l'écran sans mes lunettes, donc je pense que c'est bon. Dans une première partie, nous allons survoler rapidement ce chapitre 6. Au début du chapitre 6, nous sommes au bord du lac de Galilée. Jésus est entouré d'une grande foule et il nourrit, vous connaissez par cœur cette histoire, 5000 hommes avec 5 pains d'orge et 2 poissons. Et à la suite d'ailleurs de ce signe miraculeux, Jésus se retire tout seul sur la montagne, curieusement parce qu'il savait que la foule allait le proclamer roi, dit le texte. Le lendemain, après une nuit de tempête sur le lac, je passe les détails, un certain nombre de personnes se retrouvent avec Jésus. Alors, il s'adresse à ces personnes et il leur affirme qu'elles viennent à lui parce qu'il les a rassasiés de pain, la veille donc. Il les exhorte à travailler, non pas pour une nourriture périssable, mais pour une autre nourriture éternelle qu'il leur donnera. Juste après, il affirme que l'œuvre de Dieu consiste à croire celui qu'il a envoyé. Et ces personnes évoquent à ce moment-là la manne, c'est-à-dire ce pain venu du ciel que Dieu a utilisé pour nourrir le peuple hébreu pendant son périple de 40 ans dans le désert. Mais Jésus ne va pas dans ce sens. Il annonce que le pain qui vient de Dieu descend du ciel, donne la vie au monde, pour ensuite ajouter, coup de théâtre, qu'il est le pain qui donne la vie. Verset 35. 33, car le pain qui vient de Dieu, C'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, dit-il, alors donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus répondit, c'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Alors on note d'ailleurs que le verset parle de faim mais aussi de soif et il nous fournit déjà un début d'explication. La faim n'existe plus pour celui qui vient à Jésus, la soif n'existe plus pour celui qui croit en Jésus. C'est ce que j'ai lu à l'instant. Alors nous retenons ces expressions, venir à Jésus et croire en Jésus. On les retrouvera dans la suite. Alors, que de chemin parcouru en 24 heures. On ne parle plus du miracle de la veille, au cours duquel Jésus avait pourtant nourri 5000 hommes. On ne parle plus de la manne, pain venu du ciel donné par Dieu. Ces deux événements, l'un récent, l'autre ancien, probablement préparent cette révélation stupéfiante de Jésus, « C'est moi qui suis le pain qui donne la vie », comme on l'a lu tout à l'heure. Jésus ajoute que tous ceux qui tournent les regards vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle et qu'il les ressuscitera au dernier jour. C'est le verset 40 qui dit cela. Retenons à nouveau les expressions « tourner les regards vers le Fils et croire en lui ». Nous les retrouverons. Alors, c'en est trop pour les auditeurs de Jésus. Ils se mettent à murmurer contre lui quand il affirme qu'il est le pain venu du ciel. Ceci, on le trouve au verset 41 et 44. Alors, voilà pour le contexte. Nous sommes maintenant arrivés au passage annoncé au début de la prédication, passage que nous allons maintenant lire, et nous aborderons alors la deuxième partie de la prédication. Est-ce que ma diapo a bougé là, non ? Bon, si tu voulais, Frédéric, si tu as la main, faire bouger, voilà. Je suis un peu en difficulté parce que... Oui, c'est ça, alors c'est la suivante, s'il te plaît. Voilà, alors nous lisons ce passage, qui est un peu là où je veux en arriver. Jean à partir du verset 47 et jusqu'au verset 60. Nous essayons de le lire en essayant, c'est un peu difficile parce que le texte est dense, de mémoriser les idées rencontrées dans ce texte. J'en mettrai en évidence quatre. Voici le texte. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit à la vie éternelle, car je suis le pain qui donne la vie. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert et cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est... À ces mots, les Juifs se mirent à discuter entre eux, disant « Mais comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger ?» Alors Jésus leur dit « Oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Le Père qui m'a envoyé à la vie en lui-même, c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts, mais celui qui mange de ce pain-ci vivra pour toujours. Voilà ce que déclara Jésus lorsqu'il enseigna dans la synagogue de Capernaum. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut l'écouter? Alors, en essayant de noter les idées rencontrées, j'ai fait un inventaire que je vais vous donner devant vous. J'ai lu, j'ai écrit, j'ai classé ces versets et j'ai isolé 4 idées. Première idée, déjà rencontrée concernant la personne de Jésus. Il est le pain qui donne la vie, au verset 48. Le pain vivant descendu du ciel, au début du verset 51. Et plus précisément, le pain que je donnerai, dit-il, pour que le monde vive, c'est mon propre corps, à la fin de ce même verset 51. Deuxième idée. Celui qui mange du pain descendu du ciel ne mourra pas. On voit ça au verset 50. Il vivra éternellement, au milieu du verset 51. Il vivra toujours, au verset 58. Troisième idée. Elle amplifie la deuxième. Elle nous met dans une certaine perplexité. Jésus parle de lui et affirme « Ma chair est vraiment une nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. » Verset 55. Sa chair, son sang, une nourriture, un breuvage. Et la même idée se poursuit encore. Celui qui se nourrit de ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour, dit le verset 54. Il demeure en moi et moi je demeure en lui, verset 56. La quatrième idée, encore un pas supplémentaire. Celui qui mange la chair de Jésus et boit son sang. Et là, notre perplexité demeure. Qu'est-ce que ça veut dire, manger la chair de Jésus et boire son sang? C'est important parce que c'est une condition nécessaire pour avoir la vie éternelle, dit le texte. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. C'est nécessaire. Mais c'est aussi suffisant. C'est une condition suffisante pour avoir la vie éternelle avec en prime la résurrection au dernier jour. Celui qui se nourrit de ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour, dit le verset 54. Alors on sent qu'il y a une montée en puissance dans les idées. Et cette montée en puissance, elle s'accompagne, je le répète, d'une certaine perplexité. Qu'est-ce que ça veut dire, manger sa chair, boire son sang? Alors, après cet inventaire, ouvrons une parenthèse. On peut imaginer l'incompréhension des personnes présentes et comprendre leur questionnement. Comment cet homme peut-il nous dire de manger son corps? Il le dit au verset 52. D'ailleurs, parmi les personnes présentes, il y avait des disciples et plusieurs d'entre eux dirent, je l'ai suggéré tout à l'heure, ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut l'écouter? Ça, c'est le verset 60. Alors, ses disciples, Frédéric, les voilà. Les voilà, ses disciples. Jésus est au fond, au pied de cet arbre. Il parle à une foule. Et puis, il y a 3 disciples qui se sont mis à part. Le Seigneur dit, ma chair est là, vraie nourriture. Et mon sang est la vraie boisson. Et ces 3 disciples disent, premier, je n'y comprends rien. Si on allait dîner chez Marthe, Marthe c'est celle qui s'affairait toujours à sa cuisine, elle devait être une bonne cuisinière. Donc visiblement là, la perplexité règne. Il y eut autour de Jésus de la perplexité et même de l'incompréhension. Certains disciples, je l'ai signalé, abandonnèrent alors Jésus et cessèrent de l'accompagner. On peut voir ça au verset 66. Alors pour nous aussi, ce langage, enfin pour moi, est assez difficile à comprendre. Que signifient ces paroles imagées? C'est une image, bien sûr. Ma chair, dit-il, est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage, ou encore manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang. Le comprendre, c'est ce que nous allons essayer de faire dans cette troisième partie, et on en vient à la troisième partie. Frédéric, si tu veux avancer. Voilà, que peut signifier se nourrir de ma chair et boire mon sang? Jean VI accorde une telle importance à cette double expression, se nourrir de ma chair et boire mon sang, qu'il faut un peu creuser son sens. Et pour trouver une explication à cette curieuse parole, on revient au texte de Jean 6 et on va comparer deux versets qui sont affichés. Je dis que je vais tenter d'exploiter ces deux versets, mais que pour bien faire, il faudrait rappeler l'ensemble des versets que j'ai lus dans le survol de la première partie et pas en conclure que je n'utilise que ces deux versets-là pour affirmer ce que je crois pouvoir affirmer dans quelques minutes. Alors, verset 40. Tous ceux qui tournent les regards vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Verset 54. Celui qui se nourrit de ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Jésus utilise ici l'image du manger et du boire, de même qu'à d'autres moments, il utilise l'image du chemin, l'image de la porte, d'autres images encore. La constatation qu'on doit faire, c'est que ces versets sont étonnamment parallèles. Et ce que je vais dire dans quelques secondes ne s'appuie pas seulement sur ce parallélisme, mais je le répète, sur l'ensemble des versets que j'ai suggérés dans le survol du chapitre 6 dans la première partie. Frédéric, si tu veux avancer. Merci. Donc, du parallélisme de ces deux versets, qui est évident, on peut déduire, il me semble que ce pourrait être la thèse de cette partie de la prédication, que lorsque Jésus parle de manger sa chair et boire son sang, il utilise un langage imagé, une métaphore, pour être pédant, un langage imagé pour exhorter ses auditeurs à tourner les regards vers lui, à venir à lui, selon le passage qu'on prend, et à croire en lui de sorte qu'ils accèdent à la vie éternelle. L'image « manger le corps et boire le sang », c'est au minimum un appel à la conversion. Tourner les regards vers lui, c'est-à-dire venir à lui, croire en lui, de sorte que les auditeurs de Jésus accèdent à la vie éternelle. Allons un peu plus loin. L'image « manger le corps et boire le sang » s'adresse-t-elle seulement à des incroyants? Probablement pas. Affirmer que cette parole de Jésus ne s'adresse qu'aux incroyants, que cette parole de Jésus ne nous concerne plus dès lors que nous sommes venus à Jésus, dès lors que nous avons cru en lui, reviendrait à considérer que la vie chrétienne se termine à la conversion. Or, nous savons que la conversion n'est qu'un début, pas une fin. Alors, de ce fait, cette image « manger le corps et boire le sang » est aussi pour tous les croyants, qu'ils soient convertis depuis peu ou qu'ils soient convertis depuis longtemps. Je vous demande la patience de lire 10 lignes que j'ai pris dans l'Encyclopédie des difficultés bibliques d'Alfred Kuhn. Il écrit « Ce que nous mangeons, nous l'assimilons. C'est-à-dire que cela devient partie intégrante de nous-mêmes. Ce que nous buvons pénètre dans toutes les fibres de notre être. » L'apôtre Paul expliquera, c'est Alfred Kuhn qui continue, hein, c'est pas moi, que Jésus n'est pas seulement mort pour nous, nous sommes aussi morts avec lui pour que sa vie puisse se manifester dans notre corps. Manger sa chair et boire son sang signifie donc mourir avec le Christ et vivre de sa vie, faire nôtre sa mort pour qu'elle pénètre toutes les fibres de notre être intérieur et y fasse mourir les tendances de notre homme naturel, afin que la vie de Jésus puisse transparaître au travers de la nôtre par son esprit vivant en nous. » Fin de citation. Donc l'image « manger ma chair et buvez mon sang est certes un appel à la conversion, mais elle est aussi une exhortation à la sanctification, qui est l'œuvre commune de Dieu et du croyant, de sorte que le croyant ressemble de plus en plus dans son identification avec Jésus-Christ.